Vous écoutez Ainsi soit-elle.
Quand j'étais petite fille, on m'avait bien apprise à faire ce qu'on me dit, rien savoir de l'anarchie, savoir rien de politique. Des hommes déshabillés, de drogue qu'on m'avait, d'amour et de tuer. Et si tu me paries les réponses aux grands défis de l'univers.
Cette semaine à Ainsi soit-elle, vous êtes en compagnie d'Evelyne, Hélène et Marie. Bonjour.
Allô.
Allô.
On va vous parler d'abord quelques nouvelles, deux petites nouvelles et un coup de gueule pour commencer l'émission. Ensuite, on a une capsule préparée par Geneviève Olivier d'Avignon sur les formations de l'hiver du collectif Éco-Quartier. Et on va conclure par un long calendrier d'activités militantes ou engagées pour les prochains jours. Le tout accompagné d'un excellent choix musical de Marie. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé pour commencer l'émission?
Là, on s'en va au Congo avec T'Challa Moana. La chanson s'appelle Lekela Mouadi.
Oui, Kaladin Kenenawa Kwatakumokusu. Kabuya!
ondes de CKIA FM, vous écoutez Ainsi soit-elle. Et Hélène, tu nous as préparé une petite, deux petites nouvelles.
Oui, en fait, pour commencer, on va y aller avec l'international. Donc, c'est difficile de pas parler l'Égypte par les temps qui courent, mais on entend parler de plein de manières différentes. Puis, vu qu'on est super high-tech, Ainsi soit-elle, je me suis dit qu'on pouvait regarder un peu ce qui se passait du côté de la téléphonie mobile, ou en tout cas, en fait, des communications, parce qu'on sait que si les militants, les militantes ont rapidement compris l'utilité et même la l'efficacité des médias sociaux et des communications, mais c'est le cas aussi pour les autorités. Puis on en a un bon exemple en Égypte, en fait, il y a Vodafone, qui est un géant britannique de la téléphonie mobile, qui déplorait en fait par voie de communiqué de presse la semaine dernière qu'ils étaient forcés par le gouvernement pro-Mubarak, mais par le gouvernement Mubarak, en fait, à relayer des messages à la population. En effet, en fait, ce qu'ils déploraient dans leur communiqué de presse, en fait, ils dénonçaient le fait qu'ils avaient été obligés de diffuser aux abonnés en Égypte des messages officiels sans que ça soit clairement attribué au gouvernement. Donc, c'est pour ça qu'ils ont voulu publiquement dire que, un, il n'y avait aucun contrôle sur les messages. Et ils ont aussi expliqué, dans le fond, qu'ils avaient officiellement porté plainte auprès des autorités, puis qualifié, évidemment, la situation d'inacceptable. Puis, comment ça, on peut se demander, bien, comment c'est possible, dans le fond? Puis, ce qui expliquait Vodafone, dans le fond, c'est que, depuis le début des manifestations anti-gouvernementales, les autorités égyptiennes font usage d'une loi. Cette loi-là a contraint les opérateurs de téléphonie mobile du pays, qu'on pense à Vodafone, Mobinil ou Etisalat, que moi je connaissais pas du tout avant de préparer cette nouvelle, peu importe, à relayer dans le fond des messages sous la forme de SMS. Donc, des exemples de messages envoyés, la source, c'est les journalistes de l'AFP, en fait, qui avaient accès aussi. Il y avait un message, entre autres, qui disait « Les forces armées veillent à votre sécurité et n'auront pas recours à la violence contre ce grand peuple. » Un autre exemple de message, « Chaque mère, père, sœur et frère et tout citoyen honorable doit protéger le pays. » Un autre exemple, « À la jeunesse d'Égypte, méfiez-vous des rumeurs, écoutez la voix de la raison, l'Égypte est au-dessus de tout, préservez-la. » Hein, donc, on voit le genre de propagande.
Mais c'est spécial parce que c'est des messages qui peuvent être quand même interprétés dans un autre sens, tu sais, parce que les manifestants, manifestantes vont aussi prétendre qu'ils protègent l'Égypte.
Ouais, c'est ça. C'est ouais, très c'est nationaliste clair. Quand même, là.
Ouais, en tout cas, c'est nationaliste d'un bord ou de l'autre, ça, c'est clair. Ouais. Mais en tout cas, c'est voilà le type de message que les gens recevaient par SMS. Et aussi, les opérateurs mobiles que je vous ai nommés tantôt, pouvez-vous les répéter?
Non, Vodafone,
Mobinil, Etisalat. Donc, ces opérateurs mobiles-là ont également été contraints à plusieurs reprises de carrément, puis là, c'est plus clair, il n'y a pas d'ambiguïté, de suspendre les services dans certaines zones à la demande des autorités. Donc, les autorités elles-mêmes ont aussi coupé 5 jours d'affilée l'accès à Internet dans tout le pays. Et il apparaît évident que toutes ces mesures-là visaient évidemment à entraver le mouvement de protestation sans précédent contre le président Hosni Mubarak, qui d'ailleurs est en ce moment en train de négocier pour avoir des soins de santé en Suisse. Ça date d'aujourd'hui comme nouvelle.
Ben oui, pays neutre. Hein,
ouais, non, c'est ça, comme c'est... toujours. Mais les gens se demandaient, en tout cas ce que je disais aujourd'hui sur de nombreux blogs, c'est les gens se questionnaient, est-ce que c'est une retraite ou pas vraiment, parce qu'ils ont quand même commencé des négociations avec certains représentants de l'opposition, dont les frères musulmans, ce qui était parvé depuis un bon petit bout. En tout cas, on continue à surveiller ça, c'est certain. Deuxième nouvelle, cette fois toujours dans le registre de la guerre, hein, qui visiblement prend beaucoup de place dans cette époque, c'est le Canada qui a versé plus de 41 millions de dollars en 4 ans à des entreprises privées de sécurité en Afghanistan. Donc, je trouvais que ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de l'Afghanistan à l'émission, puis pourtant, ça continue quand même là-bas, donc c'est important de pas lâcher notre lentille. Donc, ça ici, c'est grâce au NPD, si on a ces... Merci, le NPD, si on a ces informations-là. En fait, c'est qu'ils ont fait la demande, tout simplement, d'avoir des documents qui ont été déposés la semaine dernière au Parlement à ce sujet-là. Puis, on a pu apprendre, grâce à ces documents-là, que les ministres canadiens de la Défense nationale et des Affaires étrangères ont fait appel au service de plus de 11 entrepreneurs en sécurité à Kaboul et à Kandahar depuis 2006. Donc, évidemment, tout en taisant l'existence et les responsabilités de ces derniers, puisqu'on l'a appris seulement la semaine dernière, ce qui ouvre tout grand la porte à l'impunité, bien évidemment. Puis, ces groupes-là, ces entrepreneurs-là, sont accusés d'avoir aggravé le chaos, en guillemets, en Afghanistan. Premier exemple, c'est Armor Group Security. Securities. Donc, cette compagnie-là a reçu 8 millions de dollars du ministère des Affaires étrangères. Et la mission, entre guillemets, oui, disons mission, ça me permet de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire une mission. Donc, l'entreprise assurait la sécurité autour de l'ambassade canadienne à Kaboul et protégeait nos diplomates. Selon les conclusions d'une récente enquête du Sénat américain, cette entreprise-là a recouru au service des seigneurs de garde afghans. Hein, donc, en partant, on voit que c'est pas des enfants de cœur. On a eu l'occasion d'en parler à un squatette de leurs pratiques. On peut rappeler, entre autres, qu'Amnesty International, mais aussi plusieurs groupes qui ont publié des rapports et des enquêtes rapportant que les seigneurs attestants, voilà le mot que je cherchais, que les seigneurs de guerre avaient été impliqués dans des cas de meurtre, de viol, d'enlèvement, de corruption et d'activités contre les forces de la coalition même. Imaginez. Donc, ça, c'est le premier exemple. Donc, on est bien content de savoir que les fonds publics ont pu servir à ce premier groupe. Deuxième groupe, en fait, c'est G4S Risk Management qui a remplacé Armor Group Securities. Donc, eux travaillaient pour le ministère de la Défense nationale à l'extérieur des bases d'opérations avancées canadiennes, ont reçu plus de 5,3 millions de dollars. Hein? Et toujours le même rapport du Sénat, on aime ça beaucoup citer le Sénat américain et Squatel, alors on le fait sans se gêner. Donc, le rapport du Sénat a placé ce groupe-là sur une liste d'entreprises qui ont débauché du personnel des forces de sécurité afghanes. Pas certain de savoir vraiment débaucher. J'ai l'impression que ça doit être, dans le fond, qu'ils sont allés les chercher. C'est ce que je comprends. Là. Ils ont recruté. Mm-hmm. C'est juste ce que je comprends, mais je fouillerai plus loin au pire. Je leur parlerai, mais c'est ça, je comprends. Puis, oui, le président Hamid Karzai depuis longtemps, il dénonce cette pratique-là, justement. Puis l'année dernière, le gouvernement afghan a pris des mesures pour expulser de l'Afghanistan toutes ces entreprises privées de sécurité-là. Donc, ça vous donne une idée. Puis, c'est intéressant d'aller voir le site web, en fait, de G4S Risk Management, mais aussi d'un autre groupe dont je ne parlerai pas parce que vous comprenez l'idée, Tundra SCA. Sur le site de Tundra SCA, si jamais vous avez du temps à perdre, vous pourrez voir que sur leur site, ils vantent leurs compétences en collecte et en analyse de renseignements. Donc, quand on sait qu'eux aussi utilisent les pratiques des seigneurs de guerre, ça veut dire...
torture.
Exactement. On se vante d'aller chercher des règlements, des renseignements en torturant les gens. Pourquoi pas? Donc, on peut citer le NPD quand même, puisque c'est grâce à eux qu'on a les renseignements. Donc, dans le fond, les déclarations qu'ils ont faites, c'est que le gouvernement doit rendre des comptes, cesser de se cacher derrière la sacro-sainte sécurité nationale pour nous rendre compte, dans le fond, de qu'est-ce qu'ils font avec l'argent. Et aussi, un point plus intéressant, il disait dans le fond que le gouvernement fédéral aurait dû disposer d'un mécanisme pour encadrer ces entreprises privées-là de sécurité à tout le moins, parce que, selon le NPD, les efforts du Canada à Kandahar pour la création d'un État de droit, en guillemets, ont souffert de l'absence d'un tel mécanisme. C'est sûr qu'on pourrait pousser l'analyse encore plus loin ici, mais c'est quand même, je trouve intéressant de relayer ces informations-là. Donc, c'est mes deux premières petites nouvelles qui sont un peu tristes, mais bon. Faut le savoir. Gardons les yeux ouverts.
Merci, Hélène. On va écouter Françoise Guimbert, une chanteuse de La Réunion. La chanson s'appelle « Sac la pointe ».
Anniversaire, Tonya, nous les donne malisés. jamais dit à moi quand la pointe il faut voler. Papa l'a jamais dit à moi quand la pointe il faut mendier. M'y rappelle encore longtemps quand la vie point travail. L'idée ça va avec la clé pour acheter manger. Sac nana n'a pour gâter, sac la pointe la pointe. Nous la pouvons manger à soi, mais ça va rôder. La case, mon maman, Tonya, n'a toujours un gazou. Sac nana, n'a pour gâter, sac la pointe, la pointe du tout. Sorti wapa sac la pointe. 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 Sorti wapa sac la pointe.
Vous êtes toujours à l'antenne de CKIA FM 88,3 où vous écoutez Ainsi Squat-elle jusqu'à 20h ce soir si vous écoutez effectivement l'émission en direct en ce mardi 8 février. Alors c'est maintenant la voix de Geneviève Olivier d'Avignon que vous entendez. En fait, je me réjouis de revenir derrière le micro d'Ainsi Squat-elle à titre de collaboratrice chroniqueuse où je réapparaîtrai quelques fois dans les prochains mois pour vous entretenir de différents sujets. Aujourd'hui, en fait, j'ai plutôt l'intention de vous parler du collectif Éco-Quartier. Alors, un collectif d'écologie urbaine où je travaille puis où je m'implique aussi. Puis, je souhaite en fait vous faire mieux connaître ce qu'on fait, ce qu'on est, puis vous inviter surtout dans nos prochaines activités qui s'en viennent. Alors, tout d'abord, ben, qu'est-ce que c'est le collectif Éco-Quartier? C'est un groupe d'individus. On est quand même plusieurs. On est ouvert. Tout le monde peut se joindre à nous, les personnes qui souhaitent mieux s'informer sur différentes problématiques environnementales, pour des personnes qui souhaiteraient développer des outils sur différentes pratiques écologistes pour les soutenir là, dans le développement d'une quotidienneté bien écolo. C'est aussi un lieu où on peut s'impliquer, soit ponctuellement ou alors plus régulièrement, dans cet objectif global-là, donc d'éco-quartier, qui est vraiment la promotion d'alternatives liées à l'écologie urbaine. Alors, bien plus concrètement, si je vous parlais d'éco-quartier, la manière dont le collectif se manifeste dans différents projets ici dans la ville de Québec, pensons d'abord à Urbanus Compostus. C'est peut-être le projet dont vous avez déjà eu écho ou déjà vu parce que ça se manifeste très concrètement par 9 sites de compostage communautaire qui sont dans différents endroits dans les quartiers centraux de la ville, des endroits où, en tant que citoyen, citoyenne, vous pouvez vous inscrire et aller donc composter et gérer vos matières domestiques, vos matières organiques et jouir après d'un retour du compostage pour vos jardins ou vos plantes intérieures. Alors, Urbanus Compostus, en fait, c'est 8 sites de compostage communautaire qui sont déjà actifs et un 9e qui va ouvrir ce printemps, la coopérative d'habitation La Baraque dans le quartier Saint-Sauveur. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le compostage communautaire ou sur le vermicompostage, donc soit l'élevage de petits vers de terre, des petits vers que vous pouvez avoir dans votre demeure, dans votre cuisine et qui peuvent vous aider à gérer encore là vos matières compostables, contactez Geneviève Perron-Dufour à Écoquartier. Elle va se faire un plaisir de vous en parler un peu plus. Écoquartier, c'est aussi un projet de jardin. Ouais, d'agriculture urbaine, parce que dans ces villes qu'on veut écologiques, eh bien, on les veut vertes, on les veut productives, on les veut nourricières aussi. Et puis, Urbanus Jardinus, c'est la manifestation bien concrète de ce désir-là. En fait, c'est un jardin, c'est un projet de jardin collectif d'expérimentation qui se fait en bac de jardinage qu'on peut disposer sur les balcons, sur les espaces asphaltés, les espaces contaminés aussi en ville. On peut les mettre sur les toitures, finalement dans tous ces micro-endroits urbains où on a condamné le potentiel jardinier, mais finalement on s'aperçoit qu'il en regorge avec l'aide de ces bacs de jardinage qu'on conçoit à Écoquartier nous-mêmes dans une optique bien autonomiste, do it yourself, si je peux me permettre l'expression, soit vraiment de faire soi-même avec les matières récupérables qu'on retrouve. Alors, si vous êtes intéressé à joindre le projet de jardin, eh bien, bien qu'il y ait encore la neige à l'extérieur, ça commence bientôt parce qu'il faut préparer les semis, préparer les plants de jardin et tout ça. Donc, contactez Megan ou Robert à Écoquartier. Quand je disais, on a quatre projet pilier au collectif Écoquartier, eh bien, le troisième, c'est la vie démocratique du collectif. Alors, bien plus qu'un simple milieu, que des simples considérations organisationnelles qui seraient parallèles aux différents projets ou même subordonnées à ceux-ci, eh bien, au collectif Écoquartier, notre vie démocratique, c'est donc nos réunions dans lesquelles, à chaque 2 semaines, on se rencontre et puis on parle de nos projets, puis on prend des décisions ensemble. Ça se fait dans une démarche autogestionnaire qui représente en fait en soi-même un laboratoire d'expérimentation où on peut explorer des manières collaboratives de faire notre micro-politique là, à l'échelle du collectif, donc notre gestion du quotidien, notre gestion des tâches et des projets. Donc, pour venir expérimenter, explorer, puis apprécier en fait les possibilités de l'autogestion, les rencontres du collectif qui ont lieu un mardi sur deux au collectif et qui sont ouvertes à toutes et à tous, c'est un excellent lieu pour apprendre et développer parce que pour nous, la vie démocratique, ça fait aussi partie de l'écologie qu'on veut construire. Maintenant, le quatrième et non pas le moindre, projet d'Écoquartier, ce sont les ateliers de sensibilisation et de formation. Et c'est surtout de ces ateliers dont je souhaite vous parler, puisque ça va me permettre de vous inviter aux prochaines activités qui vont se dérouler. Les ateliers de sensibilisation se déroulent aussi un mardi sur deux, donc c'est en alternance avec nos rencontres du collectif. Et vraiment, on vise là-dedans à s'outiller d'idées puis de pratiques qui peuvent encore le soutenir le développement de comportements écolo chez les personnes, mais aussi à l'échelle de la ville et plus largement s'arrimer à des projets écologistes nationaux ou transnationaux, là, à voir selon les thèmes qui sont abordés. Vraiment, dans ces ateliers de sensibilisation puis de formation-là, on souhaite que ce soit un espace de partage de connaissances, participatif, convivial aussi. Donc, tout le monde a une connaissance ou plus qu'une connaissance à partager. Puis, on favorise vraiment ce modèle-là, en fait, de partage qui veut rompre un peu avec le contexte professoral ou d'expertise qui concentre souvent la parole d'experte, là, à certaines personnes qu'on invite sous forme de grandes présentations magistrales. Non, nous, à Écoquartier, on souhaite partir des connaissances de tous et toutes, de chacun chacune, et se les partager dans une optique d'empowerment et puis de collaboration, de travailler ensemble. Donc, si vous avez un atelier à partager ou un thème que vous voulez nous soumettre, bien sûr, appelez-nous à Écoquartier. Vous pouvez me contacter directement. Mon nom, c'est Geneviève, je vous le rappelle, pour faire vos suggestions. Dans les derniers mois, nous étions dans une, pour vous donner un aperçu de ce qui se passe à Écoquartier, en fait, dans les ateliers de formation, nous étions dans une série thématique axée sur le faire soi-même, le bricolage, le do-it-yourself encore là. Donc, on a exploré des ateliers de couture où on pouvait être invité à apprendre à fabriquer nos propres serviettes sanitaires, par exemple, où on a fait beaucoup de transformations d'alimentation pour viser une meilleure autonomie alimentaire, pouvoir manger le plus local possible à l'année. On a exploré qu'est-ce que la sérigraphie, apprendre à faire soi-même ses t-shirts d'information pour soutenir des campagnes et tout ça. Et maintenant, depuis 2011, eh bien, on est dans une série qui s'intitule « Mouvement écologiste et enjeux actuels ». Ben oui, parce que c'est aussi ça, des ateliers de formation, sensibilisation, ça apprendre donc sur qu'est-ce qui se passe un peu partout dans ce plus large mouvement écologiste auquel on souhaite s'identifier. Ça me permet de vous inviter mardi prochain, 15 février, dès 19h. Donc oui, en même temps qu'Ainsi soit-elle, mais tout de suite après l'émission, dès 20h, vous pouvez nous rejoindre. Ça se passe à l'Agité au 255 Dorchester. Et ce sera une présentation de Marie Meudec, qui est doctorante en anthropologie à l'Université Laval, mais également membre du collectif Ainsi soit-elle. Donc vous connaissez pas probablement sa voix. Marie Meudec va nous parler de les déplacés de l'environnement. Alors, toute cette situation et ce contexte de ces personnes qu'on appelle les migrants et migrantes forcés du climat, les déplacés internes ou encore les réfugiés environnementaux, en fait, ces personnes qui, dues à des dégradations environnementales, doivent quitter, bouger et nous parlerons en fait de toutes les causes de ces désastres environnementaux. Est-ce que c'est toujours seulement des causes naturelles ou est-ce qu'il n'y a pas des réactions et des liens à faire avec nos comportements humains et sociétaux également? On va parler des implications juridiques, politiques que ça peut avoir le fait d'être déplacé de l'environnement. Et à titre d'exemple, bien, on va explorer le cyclone de Katrina à la Nouvelle-Orléans, le séisme en Haïti qui a eu lieu il y a déjà un peu plus qu'un an. On va penser à la montée des mers aux îles Tuvalu, donc ces îles qui risquent fort probablement d'être entièrement recouvertes éventuellement si le réchauffement climatique continue à contribuer à la montée des eaux. Ça va être aussi l'occasion, dans le cadre de cet atelier-là, de visionner le film « Les réfugiés de la planète bleue ». Alors, c'est un rendez-vous fort chargé et fort intéressant, je dirais fort pertinent en termes d'actualité écologiste. Donc, c'est un rendez-vous que je vous répète qui se passe mardi prochain, soit le 15 février, dès 19h, et ça a lieu à l'Agité, parce que à Écoquartier, même si nous tenons énormément de nos activités dans notre local sur la 12e rue à Limoilou, on sort aussi un peu de chez nous et on va à votre rencontre là où vous vous trouvez et là où vous avez envie de sortir. On comprend très bien qu'aller à l'Agité le mardi, c'est des plus agréables. Alors, ça se passera au 255 Dorchester. Et pour finir, je vous donne nos coordonnées si vous souhaitez nous appeler à Écoquartier. C'est le 523-4580. Maintenant, quant à nous, nous nous reverrons dans 2 semaines. Je reviendrai à Ainsi soit-elle, soit mardi le 22 février pour une prochaine chronique qui va porter sur le mouvement des fanfares de rue, des fanfares militantes. Et pour nous mettre déjà dans le goût de cette thématique, je vous laisse sur une pièce de musique d'une fanfare de Providence, dans le nord-est des États-Unis, qui s'appelle What Cheers Brigade. Et la pièce s'intitule Salyan Ray Sayan. Elle a été enregistrée live en direct au Hunkfest, qui est un festival de fanfare de rue, de fanfare militante, dont j'aurai certainement l'occasion de vous parler un peu plus dans 2 semaines. Alors, sur ce, à très bientôt!
Appel aux progressistes. Il faut sauver Sequoia.
Sequoia est né il y a 25 ans dans les luttes.
À l'origine, les groupes communautaires, féministes et écologistes arrachent le droit d'émettre sur la bande FM.
Depuis, Sequoia est acteur et témoin de tous les combats.
Sauver Sequoia, c'est soutenir la gauche, la démocratie et la diversité d'opinion. Sequoia est née dans les luttes et si elle doit s'éteindre, ça ne sera pas sans combat.
Sauver Sequoia! Sauver Sequoia FM!
Achetez une carte de membre sur sequoiafm.org, passez-nous voir sur les heures de bureau au 600 Côte d'Abraham ou appelez-nous au 529-9026.
Et vous êtes toujours sur les ondes de Sequoia FM 88,3. Vous êtes en compagnie des filles d'Insisquatel. Une excellente chronique de notre collaboratrice Geneviève Olivier-Damillon. On se disait en ondes, on a très hâte de l'entendre dans deux semaines sur les fanfares anarchistes. On s'est dit aujourd'hui, petit coup de gueule. Et vous allez comprendre qu'il y a de quoi faire un coup de gueule, en effet, à la compagnie américaine Walmart. Et oui, Walmart va lancer un anti-âge pour les fillettes de 8 ans, baptisé Geo Girl. Et là, vous allez voir comment tout est mélangé, le fait que le corps des femmes ne doit pas vieillir et qu'on doit intégrer ça dans la psyché des petites filles dès l'âge de 8 ans, mais aussi que c'est important de le faire dans une perspective verte. Hein, tout ça est dans Geo Girl. La cible de la gamme des 70 nouveaux produits de Geo Girl, dans le fond, c'est ça. La marque est décrite, la cible, donc, c'est les fillettes de 8 ans et plus. La marque se décrit comme respectueuse de l'environnement et donc approuvée par les mères et la terre-mère. Et vous pouvez continuer l'enchaînement dans votre tête, vous n'avez pas trop envie de vomir. Elle vise les 8 à 12 ans, donc les préadolescentes. Et la marque ajoute que cette gamme de nouveaux produits plaira aux filles qui veulent des vrais cosmétiques, mais avec des ingrédients naturels. Hein? On voit, on nage en pleine postmodernité, là. Tous les références sont mêlés. Non, c'est ça. Donc, les produits sont non seulement naturels, mais aussi, ils contiennent un actif anti-âge grâce à des antioxydants. Ce qui est plus qu'étonnant quand on regarde l'âge de ces fillettes-là, 8 ans. Hein, 8 ans, allô?
Il faut les habituer à mettre de la petite crème.
Oui, exactement, de la crème, comme dit une fillette que je connais. Je veux de la crème. Donc, les personnes de plus de 12 ans prendront un véritable coup de vieux. Donc, ça, c'est nous autres, les filles. Quand on va essayer de déchiffrer le nom des produits, parce qu'évidemment, c'est adapté, tu sais, il y a sûrement eu plein de focus group là-dessus. Donc, c'est adapté aux gens qui sont, aux fillettes de 8 ans. Donc, ça utilise vraiment, vous allez voir, je vais le dire, vous allez comprendre. Il y en a un, c'est J4G, hein, pour Just for Green. QTPI pour Cutie Pie, URA pour Your Star, donc vraiment qui reprend l'espèce de...
Le langage SMS.
Voilà, merci Evelyne de me sauver la vie. Et il y a aussi FYEO for Your Eyes Only. C'est ça, c'est vraiment... Ah, oh, Seigneur Jésus-Christ, où es-tu? dans la crème. Pour terminer, en fait, au cas où ça vous intéresserait, si vous êtes à l'écoute puis que vous avez une nièce ou une voisine à qui vous voulez offrir de tels produits, ben, il va y avoir des blushs, des mascaras, des crèmes scintillantes pour le visage. Ça, c'est clair que ça va pogner parce que ma fille de 2 ans en fin de semaine était très énervée à l'idée de mettre des brillants. Peut-être que j'ai acheté eux, vu qu'ils sont respectueux de l'environnement. Des corps, des nettoyants, tout ça pour moins de 6$. Regardez, coup de gueule à part les squattels. On n'a pas de bruit pour flusher, mais on flush.
Sur ça, on va entendre tout de suite une pièce de Norman Naraki qui s'appelle « Pourquoi suis-je un anarchiste? »
ondes de CKIA FM. C'était Norman Naraki qui est présentement à Québec si vous nous écoutez en direct mardi. En fait, il est un invité spécial des Mardis de l'Anarchie cette semaine parce que cette semaine, au Mardi de l'Anarchie, sont en vedette les livres, la poésie et la musique. Donc, Norman Naraki et son violon amplifié vont être là pour mettre un petit peu d'ambiance musicale si vous voulez aller rejoindre les gens là-bas à l'Agité située au 251 rue Dorchester. Ça va se poursuivre toute la soirée. Moi, j'aime beaucoup Norman Naraki parce que je trouve qu'il y a sa prestation et son incorporation de l'anarchisme est très plein d'émotions. Là, c'est pas un anarchisme qui est seulement intellectuel ou théorique, là, mais vraiment un anarchisme dans lequel il y a de la place pour la danse, mais pour les larmes aussi.
Pour la
là.
Musique, non, c'est vraiment senti, c'est clair. Moi, c'est Lettres de Pologne, c'est vraiment, je connais les lettres par cœur, là, c'est un CD qu'il avait fait, là, puis c'est vraiment excellent.
Oui, puis c'est un anarchiste qui fait pas juste de l'art non plus, hein. Il est beaucoup dans la dénonciation, mais la dernière chose que j'ai vue de lui, c'était une pièce de théâtre où il dénonçait beaucoup la situation en Italie, une pièce de théâtre et une conférence où il dénonçait beaucoup la situation en Italie du traitement qui sont faits pour les Roms. Donc, c'est vraiment quelqu'un de super actif. Donc, je vous invite à aller le rencontrer et à l'agiter si vous nous écoutez en direct. Les Mardis de l'Anarchie, on en parle souvent, mais c'est quand même rare qu'on dit plus amplement un peu c'est quoi. Bien, c'est un événement d'échange et de discussion, un événement de débat politique où différents thèmes libertaires sont abordés. Le nouveau slogan, en tout cas, quelque chose que j'ai trouvé très beau dans leur publicité, ça dit « Pour pouvoir articuler une idée en résistance au discours dominant ». Donc, ça dit tout. C'est organisé par un petit collectif, c'est autofinancé par les dons des personnes qui se pointent, qui participent là-bas, et aussi par une bière solidaire. Donc, quand on achète une grosse bière de la Barberie, il y a de l'argent qui va pour le financement de l'événement. La programmation est super variée, puis l'ambiance est vraiment non sectaire. Il y a quand même un bon moment qui est laissé pour les tours de parole du public, la discussion, les questions, mais aussi beaucoup les échanges. Puis il y a toutes sortes du monde de toutes sortes d'horizons qui se présentent à chaque semaine.
Oui, puis il y a différents types d'interventions. Là, il n'y a pas comme une ligne. Moi, j'ai encore été impressionnée la semaine dernière de voir dans la discussion que c'était différents points de vue politiques qui étaient articulés. Puis dans le respect relatif oui, possible dans une discussion de genre.
La semaine prochaine à l'Agité, comme Geneviève l'a annoncé, ce ne sera pas exactement un Mardi de l'Anarchie, mais bien un atelier d'éco-quartier que Geneviève a bien expliqué et qui met en vedette Marie, qui est ici derrière la console.
Mm-hmm.
Donc, c'est un rendez-vous. Sinon, dans le calendrier militant, j'avais retenu, je suis rendue une fan des projections à la bibliothèque Gabrielle Roy.
Ben oui, hein? Je paye combien?
J'adore ça, donc... c'est à partir du 7 février, donc hier, cette semaine, c'est le film « Ça tourne dans ma tête » qui est en vedette. C'est un film sur la santé mentale, sur les diagnostics de santé mentale qui sont posés, des diagnostics de troubles mentaux qui sont posés sur des enfants. Donc, ça met en vedette les voix de quatre enfants et de leurs parents et qui racontent leur histoire. Donc, c'est très, très intimiste et c'est livré par une réalisatrice qui a elle-même reçu un diagnostic de troubles bipolaires. Donc, je trouvais ça intéressant. On ne parle pas souvent de santé mentale à Issiquatel, mais ça...
On devrait pas si on se regarde.
Voilà. Donc, demain, mercredi, le 9 février, le film est présenté à 18h30. Jeudi, le 10 février, à 14h. C'est gratuit. C'est un film d'une durée de 75 minutes et ça se déroule à la salle polyvalente au troisième étage de la bibliothèque Gabrielle Roy. La semaine suivante, du 14 au 17 février, c'est un film qui s'appelle « Enfants de soldats ». C'est un film de la réalisatrice, j'ai perdu son nom vite comme ça, mais Claire Corriveau, qui est aussi celle qui a fait le film dont on a déjà parlé, « Les épouses de l'armée ». Donc, elle-même est épouse de soldats et elle pose un regard de l'intérieur sur la vie des familles, des soldats dans les forces armées canadiennes. Donc, on dénonce souvent la guerre, on dénonce souvent les interventions des forces canadiennes en Afghanistan, par exemple, mais ce film-là, il pose vraiment un regard sur le quotidien des enfants et des adolescents qui vivent dans une espèce de toujours avec l'absence, avec la perspective du décès aussi, puis qui vivent aussi dans un univers très, très encadré par l'armée, par des codes de conduite qui viennent s'insérer dans le plus quotidien de leur quotidien, là. Et ces personnes-là peuvent avoir leurs propres opinions aussi, hein, politiques, tout ça. Donc, ce film-là essaie de lever le voile sur cette réalité-là. Donc, vous pouvez le voir lundi le 14 février à 18h30, mardi le 15 février à 14h, mercredi le 16 février à 18h30 ou jeudi le 17 février à 14h. On vous en avait parlé déjà, d'ailleurs, pour la première réunion d'organisation, mais là, c'est la deuxième réunion d'organisation qui s'annonce bientôt. C'est bien entendu pour organiser le 10e anniversaire d'avril 2001 à Québec. Donc, cette deuxième réunion-là est donc le 10 février à 19h30 au sous-sol du 435 rue du Roi à Québec. Donc, toutes les personnes individuelles ou les représentants de groupes qui se sentent touchés par cet enjeu-là sont invités à se joindre à cette organisation-là qui tente d'organiser différents événements dans le cadre du printemps, dans le fond, pour souligner le 10e anniversaire du Sommet des Amériques qui a eu lieu ici en avril 2001. Donc, ils pensent à des actions pour le samedi 16 avril, comme les actions qui sont déjà décidées, c'est des actions colorées sur l'heure du dîner, des actions commémoratives qui rappellent la clôture, le mur de la honte, un micro ouvert dans un lieu public, suivi d'ateliers participatifs ou de conférences portant sur des enjeux et des thèmes altermondialistes. L'idée, c'est de faire parler les gens sur qu'est-ce qui s'est passé sur la scène altermondialiste dans les 10 dernières années. Ils veulent aussi lancer un recueil de textes, surtout des témoignages d'avril 2001. Ils veulent compléter par un souper communautaire et une soirée culturelle, un spectacle engagé. Donc, si vous voulez contribuer à l'organisation de cet événement-là, vous pouvez, c'est très ouvert et vous pouvez aller au sous-sol du 435 rue du Roi le 10 février. Sinon, demain, ben, je fais tout à l'envers, évidemment, mais peut-être jeudi, Marie?
Ben non, fais donc demain avant jeudi.
Oui, demain, à l'AJT, comme on vous en a déjà parlé, de 17h à 19h, donc en formule 5 à 7, mercredi le 9 février. C'est un double lancement de livres des éditions de Remue Ménage. Il y a le lancement du livre Pensée rebelle autour de Rosa Luxembourg, Anna Arendt et Françoise Collin, dont on a reçu l'auteur Diane Lamoureux ici, il y a deux semaines. Vous pouvez d'ailleurs réécouter l'entrevue sur notre excellent site web en podcast, insisquatel.org.
Entrevue qui reçoit beaucoup de commentaires positifs, hein, dans le milieu militaire. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié l'entrevue d'Evelyne.
Ben,
bravo,
mieux,
Evelyne!
Sinon, j'ai dit que c'était un lancement double, c'est aussi une entrevue, c'est aussi le lancement du livre « Retour sur un attentat antiféministe, École polytechnique, 6 décembre 1989 », qui est un livre co-édité par Mille Sablet, Francis Dupuy-Déry, Lynn Kurtzman et Dominique Payette. Donc, on risque de recevoir Mille Sablet en entrevue la semaine prochaine, mais si vous voulez aller vous procurer ces livres-là, aller en savoir plus sur ces livres-là ou participer à un débat avec les auteurs, vous pouvez venir à l'AJT 251 rue Dorchester, en 5 à 7, mercredi, le 9 février.
Très bien. Et donc, jeudi, moi, la conférence dont je voulais parler, c'est dans le cadre de l'exposition « Haïti à vif » qui est à Gabriel Leroy. C'est une conférence de Franklin Midi, qui est professeur associé de sociologie à l'UQAM et qui est coordonnateur de l'Institut de coopération interuniversitaire avec Haïti. Je suis allée me renseigner un petit peu plus sur cet institut-là. En fait, c'est donc une collaboration entre l'UQAM et donc des universités, bah, notamment une université privée en Haïti, l'université Quisqueya. C'est ça. Et donc, l'intitulé de la conférence, c'est jeudi à 19h. C'est donc après les élections du 28 novembre, défis et enjeux de la reconstruction. Puis j'imagine qu'il va faire une conférence, puis qu'il y aura beaucoup de questions, parce qu'il y a plein de choses qui se passent en Haïti aussi, avec le repous, bah, en tout cas la date
avec
repoussée des
élections. Avec Aristide qui lui revenait.
Avec le passeport diplomatique qui a été donné à Aristide aujourd'hui aussi.
Ah
ouais, Duvalier en a un, Aristide en a un. Ils ont tous les deux un, et... Duvalier a appelé à la réconciliation nationale. D'ailleurs, ça m'a intéressé, ce mot-là, réconciliation nationale. C'est utilisé par vraiment beaucoup de gens. Ça veut absolument rien dire.
Ça veut
dire
quoi, c'est ça?
Ben, c'est ça.
Ça veut dire que... crachons sur les morts, ben, puis oublions les gens qui ont été torturés.
C'est hyper démagogique, là, puis ça veut rien dire, en tout cas.
Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil.
Aristide, Duvalier, ben oui. Ben oui. En tant qu'affaire, on a mis le choléra, là, c'est bon.
C'est ça. Et donc, non, il voulait un regroupement des anciens chefs d'État d'Haïti. En tout cas, ça va être beau. J'imagine que ce sont des thèmes qui vont être
être abordé. Donc si ça vous intéresse, jeudi à 19h, jeudi 10 février, donc cette semaine à 19h à Gabriel-Leroy, à la salle Gérard Martin au deuxième étage, donc une conférence de Franklin Midi.
C'est déjà ce qui met fin à cette édition 26 Quatel. Merci Marie, merci Hélène, merci beaucoup à Geneviève aussi pour son excellente intervention. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière petite pièce?
Oui, on va écouter un petit peu de Mama Keita, une chanteuse de Guinée. La chanson s'appelle Tougnafo. Et puis, pour ceux qui écoutent en direct, on a Cultivant notre hip-hop juste après.
Bye!
Bye!
Et d'où il est, où il est fait, où il est fait, Fadi Abou.